Mélomaniac. L'émission quotidienne de musique classique sur Divergence FM.
Faire de la musique est avant tout un acte d'amour.
Les notes, rien que les notes, mais aussi ce qu'il y a entre les notes. Mélomaniac sur Divergence FM, le 93.9. Mélomaniac, l'émission de musique classique quotidienne sur Divergence FM. Et nous continuons notre exploration des 100 plus grands pianistes du siècle. Une exploration que j'ai classée par ordre alphabétique. Et nous en sommes à la lettre C. Et nous abordons un très 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 grand pianiste, Alfred Cortot. Alors Alfred Cortot, c'est un pianiste qui est poursuivi aussi par une légende noire. Et je suis un tout petit peu embêté pour le présenter, puisque cette légende noire, cela concerne son attitude pendant le régime de Vichy. On va revenir un tout petit peu aux origines. Alfred Cortot, je vais être un peu plus bavard que d'habitude, sachant que j'essaierai d'être le plus objectif possible sur cette collaboration, sur son antisémitisme réel ou supposé. On va essayer de procéder par ordre. Alfred Cortot donc est né le 26 septembre 1877 en Suisse. Il est mort le 15 juin 1962 en Suisse, mais c'est toujours un pianiste français. Donc, pianiste français, et Alfred Cortot, c'est tout, sauf un enfant prodige. Il va apprendre le piano, il va être un tout petit peu laborieux, il va beaucoup, beaucoup travailler, c'est-à-dire que par rapport à d'autres qui, à l'âge de 6 ans, commencent à faire des concerts, commencent à manifester des qualités de pianistique, lui, pas du tout. C'est par le travail qu'il va vraiment conquérir la position qu'il va avoir. À tel point que pendant le conservatoire, ça va se passer plus ou moins bien. Il va être refusé plusieurs fois jusqu'à ce qu'en 1896, alors qu'il a presque 19 ans, vous voyez, je vous disais, ce n'est pas un enfant prodige, il va se présenter devant le jury, je crois que c'est pour la troisième fois, et il va jouer la quatrième ballade de Chopin. Et là, enfin, il remporte le prix, et le premier prix à l'unanimité du jury. Et ce prix va lui offrir une opportunité, puisque la maison Pleyel offre un cadeau au lauréat du premier prix du conservatoire. Et ce qu'il va demander comme cadeau, Cortot, c'est un voyage à Bayreuth. Et là, à Bayreuth, il va rencontrer Cosima Wagner, et oui, la fille de Franz Liszt et l'épouse de Richard Wagner. Cosima Wagner, qui était aussi une antisémite assez virulente. Et là, cette rencontre, ça va le marquer profondément, puisqu'il va devenir un fou amoureux de la musique de Richard Wagner et de la musique allemande et de l'Allemagne. Il retourne en France, et en France, il va créer, en 1905, avec un trio de légendes, que ça va être donc avec Pablo Casals et Jacques Thibault, et donc Alfred Cortot, un trio de musique de chambre qui va avoir une réputation internationale et qui va permettre à ce genre musical de musique de chambre de passer des salons directement aux salles de concert. Après, il va y avoir des petites dissensions dans le groupe, mais on va voir ça après un petit extrait. J'ai retrouvé dans mes archives, donc de Franz Schubert, le trio pour piano, violon et violoncelle en si bémol majeur D898, le deuxième mouvement, avec Jacques Thibault, Pablo Casals et Alfred Cortot au piano, un enregistrement de 1926, c'est un document exceptionnel.
Thank you.
Un trio de légende pour ce trio pour piano, violon et violoncelle de Schubert en si bémol majeur D898. Je rappelle que c'est un enregistrement de 1926. Jacques Thibault au violon, Pablo Casals au violoncelle et Alfred Cortot au piano. Alfred Cortot, où nous consacrons, que nous consacrons cette émission dans la rubrique des 100 plus grands pianistes du siècle classés par ordre alphabétique. Nous en sommes donc à la lettre C. Et ce trio, donc créé en 1905, il va y avoir de l'eau dans le gaz dans les années 30, pour des raisons politiques, puisque Casals, à propos de la guerre d'Espagne, va reprocher à ses deux autres partenaires de ne pas s'engager dans la lutte antifasciste. Et en même temps, il va leur reprocher d'aller jouer en Allemagne nazie. Ce que Casals ne fera jamais, puisque Casals était juif. Voilà. Donc le trio va se dissoudre dans les années 30, à partir de 35. Mais cette période d'entre-deux-guerres, ça va être quand même, pour Alfred Cortot, une période d'apogée, puisque... Il va avoir un nombre de concerts absolument impressionnant. Il va enregistrer à peu près 150 disques. Il va être reconnu comme le représentant de la Troisième République dans le monde, à tel point qu'il va avoir, il va être élevé à la dignité de commandeur de la Légion d'honneur en 1934. Il va faire des concerts un tout petit peu partout, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en Allemagne à partir de 1927, en URSS en 1936. Et en fait, c'est ce rayonnement international qui fait que c'est au titre des affaires étrangères et non des beaux-arts qu'il devient commandeur de la Légion d'honneur. Et dans tous ces concerts qu'il fait à l'étranger, Alfred Cortot, il met toujours en avant la musique française de son temps. Et on va écouter tout de suite ce que ça donne avec un tout petit extrait de Debussy, Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin, un extrait des préludes du livre 1 des préludes. Je n'ai pas la date d'enregistrement, mais c'est très court, mais c'est très beau. Alfred Cortot, l'un des plus grands pianistes du siècle, sans doute. Avec ce petit extrait de Debussy, La fille aux cheveux de lin, un extrait donc des préludes, livre 1. Je pense que c'est un enregistrement des années 30, je n'ai pas la date précise, mais le petit croustillement que vous entendez derrière est assez révélateur. Et là, on va en arriver au sujet qui fâche, qui fait la controverse et qui alimentait la légende noire dont est entouré Alfred Cortot. Alfred Cortot et son attitude pendant ce qu'on a appelé la Révolution nationale, c'est-à-dire le régime de Vichy. Alors, dans quelle mesure a-t-il adhéré, donc à cette Révolution nationale du maréchal Pétain? Y a-t-il adhéré dans sa totalité? Était-il antisémite ou pas? Le sujet fait encore aujourd'hui débat. On va essayer, moi je ne prendrai pas parti, on va essayer de prendre un petit peu les éléments les uns les autres pour voir ce qu'il en est. Il y a des choses quand même accablantes, c'est qu'il a accepté plein de responsabilités du régime. Il a été l'excuse musicale du régime. Il a même eu la Francisque reçue par le maréchal Pétain. Je suis un peu gêné pour en parler. On va reprendre les faits. Qu'est-ce qui plaide contre lui, c'est-à-dire dans cet engagement, dans cette révolution nationale, dans le régime de Vichy? Il y a donc sa signature en 1941 dans un appel contre le terrorisme. Qu'est-ce que c'est que cet appel contre le terrorisme? C'est un appel contre la résistance. Voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça. Il est évident que Cortot souhaitait plutôt la victoire de l'Allemagne que celle des États-Unis et des Alliés. Était-il antisémite? Il y a des éléments pour et des éléments contre. Je ne prendrai pas parti, mais le fait est qu'il a reçu la Francisque, qu'il était reçu par les ministres, qu'il était le représentant officiel jusqu'au voyage qu'il a fait dans l'Allemagne nazie. Il a commencé ses voyages, je le disais, ça a été un sujet de controverse avec Pablo Casals. Dès 1934, il est allé jouer dans l'Allemagne nazie. En 1938, il a joué également dans l'Allemagne nazie. Et encore plus grave, en 1942, il va faire une série de concerts en Allemagne alors que la France est occupée. Bon, alors, examinons les faits et voyons ce qui est à sa décharge. D'abord, il a été invité en 1942 par Wilhelm Furtwängler. Wilhelm Furtwängler qui l'a invité à jouer en Allemagne. Wilhelm Furtwängler, il avait un point commun avec Alfred Cortot, c'est qu'au niveau politique, ils étaient un tout petit peu à l'ouest, surtout Furtwängler. La différence, c'est que Furtwängler s'était démis de toutes ses fonctions dès 1934. Il était resté chef d'orchestre, mais il s'était démis de toutes ses fonctions, alors que Alfred Cortot avait pris des responsabilités dans le régime de Vichy. Et en plus, en 1942, ce qui s'est passé, c'est que ce voyage, eh bien, ça va servir d'alibi aux collabos, aux officiels nazis, à tel point que quand il va revenir de cette série de concerts, le 8 juillet 1942, il va y avoir le groupe Collaboration qui va se féliciter de cette série de concerts et qui va féliciter Cortot de son retour. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui a alimenté cette légende noire. Il y a encore d'autres choses, mais ça, je vais y revenir après. On va faire une petite pause musicale parce que le sujet est compliqué. On va faire une pause musicale avec Chopin. Alfred Cortot a été un très, 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 très grand interprète de Chopin. Et j'ai retrouvé un enregistrement de 1933, donc avant la période de collaboration, à la période d'apogée de la carrière d'Alfred Cortot. Il s'agit de la Barcarolle en fa dièse majeur opus 60 de Chopin, enregistrement donc de 1933. Thank you. Et il est merveilleux, Alfred Cortot, dans cette barcarolle en fa dièse majeur, opus 60 de Frédéric Chopin. Et comme disait Paul Verlaine, de la musique avant toute chose, donc nous allons continuer avec Alfred Cortot et Chopin, avec cette berceuse en ré bémol majeur, opus 57, un enregistrement cette fois de 1949. Frédéric Chopin, la berceuse en ré bémol majeur, opus 57. Alfred Cortot au piano, le grand et controversé Alfred Cortot. Et on se retrouve demain pour continuer d'explorer cette carrière du pianiste Alfred Cortot sur Divergence FM et sur Mélomaniac. Mélomaniac. L'émission quotidienne de musique classique sur Divergence FM.
Faire de la musique est avant tout un acte d'amour.
Les notes. notes, les notes, rien que les notes, mais aussi ce qu'il y a entre les notes.